Radio Okapi.
Présenté par Belinda Bossouma, voici le sommaire. Félix Antoine Tshisekedi appelle à la mobilisation générale des Congolais face à l'agression rwandaise via le M23 dans l'est du pays. Dans son adresse à la nation hier, le chef de l'État a mis en garde les traîtres qui travaillent avec l'ennemi, a-t-il dit. Et puis ce don du contingent sénégalais de la MONUSCO à la police nationale congolaise en Ituri, une preuve de solidarité à la RDC secouée par les groupes armés, explique l'ambassadeur du Sénégal en visite à Bounia. Ce don est composé notamment des tenues et gilets de protection ainsi que des coffres forts pour le stockage d'armes. Et puis, l'invité de ce midi, Mérold Agwagansi, coordonnateur des affaires civiles de la MONUSCO Beni Lubero, il nous parle des mécanismes de sortie de manière responsable en prévision de la fermeture de la base de la MONUSCO dans la chefferie de Watalinga au Nord Kivu. Madame, Messieurs, bonjour. L'actualité, c'est d'abord l'allocution du chef de l'État à la nation hier. Il s'est adressé en ces termes, je le cite, « La guerre qui nous est imposée par nos voisins exige de chacun de nous des sacrifices. C'est le moment de taire nos divergences politiques pour défendre tous rassemblés notre mère patrie. » Fin de citation. Le chef de l'État a compati tout d'abord avec plus de 200 000 compatriotes qui ont fui leur milieu. Il a aussi demandé aux vaillants soldats de défendre, protéger l'intégrité du territoire et d'assurer la sécurité du peuple congolais. Par la même occasion, Félix-Antoine Tshisekedi a appelé le peuple congolais à la mobilisation générale. Il a mis en garde les traîtres, dit-il, qui travaillent avec l'ennemi et aux jeunes qui y ont la volonté. Il leur a demandé d'intégrer l'armée pour défendre la patrie. Je vous propose de suivre le chef de l'État dans ses propos sélectionnés par Fulbert Balolagué.
Au-delà de tout clivage politique, idéologique, religieux et tribal, la défense de la mère patrie est le seul objectif qui doit nous unir en ce moment. Le pays nous appelle. La nation a besoin de l'engagement de toutes ses filles et de tous ses fils. Je vous appelle à ne pas céder aux propos xénophobes et autres discours de haine ou de stigmatisation des communautés rwandophones dont l'asservisseur se sert pour faire du chantage et de la manipulation. Tout acte allant dans ce sens sera sévèrement puni. En réponse à la forte demande de la jeunesse, j'invite celle-ci à s'organiser en groupe de vigilance en vue d'appuyer et d'accompagner et de soutenir nos forces de défense dans l'accomplissement de leur noble mission. C'est ici l'occasion de mettre en garde tous les traîtres civils ou militaires et autres brebis galeuses qui servent les intérêts de l'ennemi. Ils seront exposés à la rigueur de la loi en ayant le juste châtiment que mérite ce genre de comportement. En outre, tout en renouvelant mon appel lancé à nos jeunes qui en ont la vocation de s'enrôler massivement dans nos forces armées. Je réitère l'instruction faite au chef d'état-major général d'accélérer à cet effet la mise en place de centres de recrutement à travers les 26 provinces que compte notre pays.
Sur place au Nord Kivu, entre-temps, 7e jour consécutif ce vendredi de l'occupation par les rebelles du M23 du chef-lieu et des principales agglomérations du territoire de Rutshuru. Un calme précaire règne depuis près de 4 jours dans la zone. Toutefois, les habitants qui sont restés dans ce territoire occupé dénoncent certains cas d'abus attribués aux rebelles et à quelques bandits locaux. Grâce Amzati nous en parle.
Tout est calme dans l'espace occupé par les rebelles du M23 dans les territoires de Rutshuru, depuis Mabenga au nord du territoire jusqu'à Rugari au sud. Depuis 4 jours maintenant, les habitants qui vivent encore dans cette zone affirment qu'il y a par moments des tirs sporadiques, par exemple autour de Kiwanja. Ils estiment que ces tirs opposeraient les rebelles aux groupes armés dont certains combattants opèrent encore dans la zone. D'autre part, ces habitants parlent notamment de quelques abus que commettent les rebelles pendant cette semaine d'occupation. C'est entre autres une dizaine de véhicules et motos appartenant à certains services publics de l'État récupérés par les rebelles, parmi lesquels une Jeep de la Caisse nationale pour la sécurité sociale CNSS à Kiwanja. Ces sources parlent aussi de quelques boutiques pillées par les rebelles, à côté de certaines maisons des habitants ayant fui qui sont aussi vandalisées. Des rebelles ont aussi occupé les bureaux administratifs, les postes de la police et de l'armée. Ils auraient aussi déjà nommé une administration parallèle et ce vendredi, il y était prévu une rencontre entre les dirigeants de la rébellion et les cadres de base se trouvant encore sur place.
Par ailleurs, environ 15 déplacés ont été blessés dans des bousculades lors de la distribution hier soir d'une première assistance en vivres du gouvernement congolais dans le site de Kanyaruchinya. Nous sommes à quelques kilomètres au nord du centre-ville de Goma. Selon des sources sur place, le gouvernement, dont une délégation conduite par le ministre de la Défense séjourne dans la région, a envoyé un lot important des vivres dans ce site. Bernardin Nyangi nous en dit plus.
1250 sacs de farine de maïs, 50 sacs de sucre, 350 sacs de riz et 200 cartons contenant 4 bidons d'huile végétale chacun ont été acheminés sous forme de première assistance du gouvernement aux déplacés de guerre du 1-23 hier jeudi à Kanyaruchinya. Ce lot de vivres est arrivé tard dans l'après-midi alors que les déplacés s'impatientaient de trouver à manger. Pour la société civile, les délégués du gouvernement qui ont lancé hier la première phase de la distribution des vivres devraient poursuivre l'activité ce vendredi. Malheureusement, les déplacés s'attendaient à une distribution intégrale et immédiate pour combler leurs besoins. Du coup, ils ont forcé le passage pour récupérer ce qu'ils pouvaient. Et dans les bousculades, la police est intervenue pour les disperser en recourant aux gaz lacrymogènes qui ont provoqué la blessure de 15 déplacés. Les sources de la province indiquent que les enquêtes se poursuivent avant la reprise de la distribution. D'après les statistiques, 14 000 ménages sont déplacés, soit environ 74 000 personnes qui ont fui la guerre du 1-23 du territoire de Rutshuru et dans la partie nord de Nyiragongo. De Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
Parlant de la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC, elle ne laisse pas indifférents les évêques de l'unité du corps de Christ au Congo et ceux des églises de réveil du Congo. Dans une déclaration faite hier à Kindu après la conférence annuelle organisée par la communauté chrétienne congolaise en Ouganda, le président de l'unité du corps de Christ et président des églises du Christ au Congo ont fait savoir que les hommes des dieux, après avoir prié pour la nation, projettent de rencontrer leurs collègues des pays qui agressent la RDC pour des pourparlers afin de trouver une paix durable. Ces derniers demandent au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, s'approprier cette initiative. On écoute l'un d'eux, le patriarche Félix Pogno, au micro de Florence Kiza.
À l'issue de cette rencontre, nous avions réfléchi comment est-ce qu'à notre niveau, comment nous pouvons travailler pour mettre fin aussi à cette guerre. C'est ainsi que nous avons projeté, et cela avec l'accord et l'appui du gouvernement de notre pays, à pouvoir réunir quelques évêques de notre pays ici au Congo qui vont aller rencontrer les évêques ougandais et qui sont influents bien sûr. Nous allons partager avec eux et ensuite nous allons voir les autorités de ce pays-là afin qu'une autre solution soit trouvée que la guerre. Parce que la guerre n'a jamais été une solution et surtout que cette guerre a déjà coûté beaucoup à notre pays. Même si la guerre militaire prenait fin, mais une paix durable demande de telles rencontres, de tels dialogues avec les autres religieux de ce pays-là qui nous agressent. Et je crois que ça va projeter aussi une paix qui soit durable. Nous interpellons notre gouvernement, surtout le président de la République, de s'impliquer dans cette initiative pour que d'ici là, que cette organisation soit mise sur pied pour que nous puissions descendre.
Retour au Nord Kivu. Le réseau pour les droits de l'homme, RIDO, exprime son inquiétude face à la recrudescence des cas de meurtre pendant les manifestations publiques organisées par les mouvements citoyens et groupes de pression à Butembo. Cette alerte est contenue dans une lettre ouverte que cette organisation des défenses des droits humains vient d'adresser au commandant urbain de la PNC et des FARDC à Butembo. Ceci fait suite aux accusations portées contre les forces de sécurité qui sont indexées dans ces meurtres. Le point avec Grévis Salumu.
D'après cette plateforme de défense des droits humains, en l'intervalle de 2 mois, 4 civils ont été assassinés par balles pendant les manifestations publiques en dehors des cas de fusillades dans des ménages attribués aux forces de sécurité. Face à cette situation, le RIDO recommande aux commandants ville de la PNC et des FARDC de briefer leurs troupes avant de les déployer sur terrain sur le maintien de l'ordre public afin de respecter les droits humains et non considérer les civils comme leurs ennemis. Aux jeunes membres des groupes de pression et mouvements citoyens de s'abstenir des propos et chassons d'ingénieurs adressé aux éléments de l'ordre. Le RIDO plaide auprès des organisations humanitaires de multiplier des séances et de renforcement des capacités en faveur des policiers militaires sur les notions autour des droits humains et du droit international humanitaire. En réaction, le commandant urbain de la police à Butembo affirme que les agents de l'ordre qui tombent dans ce genre de cas sont souvent interpellés et déférés devant les instances judiciaires. Le commissaire supérieur principal Paul Ngoma appelle cependant les organisateurs des manifestations à éviter les débordements et car tout doit se régler d'une manière pacifique que par la violence.
Direction la province du Kwilu, le village Missia dans le territoire de Bagata a été attaqué hier par des hommes armés. C'est à 25 km de la cité de Fatundu. L'administrateur de Bagata qui livre l'information dresse un bilan provisoire de 16 morts, 25 personnes enlevées et plusieurs maisons incendiées. Joseph Makoto demande aux militaires déployés dans ce coin et qui sont à Fatundu d'arriver aussi à l'intérieur des zones troublées pour anéantir ces inciviques. L'administrateur de Bagata explique la situation dans ses propos recueillis par Irène Boma.
L'information, elle est vraie, affirmative. Le village de Missia, qui est à 25 km de Fatundu, a été l'objet d'une attaque encore des assaillants. Le village a été attaqué, on a incendié les maisons. Le bilan provisoire, c'est 16 morts et 25 personnes prises en otage. Voilà. Quand on prend les otages, c'est les gens qui ont attaqué. La troupe combattante, elle est là, et à Fatundu, plus précisément sur la jonction entre Wamba et la rivière Kwango, dans la carrière. Ils sont là-bas, mais pourtant que la population s'est plainte parce que les atrocités, les attaques, les agressions, c'est à l'intérieur. Donc il fallait que les troupes combattantes, les voyages soldats, les phares, ils doivent aller dans la zone troublée pour affronter les assaillants et faire revenir le calme. C'est ça le souci le plus ardent de la population. Je crois que comme premier citoyen de Bagata, les militaires sont là pour défendre l'intégrité territoriale aussi, pour ramener le calme là où il y a l'insécurité. Nous voulons qu'ils entrent à l'intérieur pour anéantir une fois pour toutes ces assaillants-là.
L'administrateur Joseph Makoto ajoute que le village Kingala Mutete, situé à 45 km de Fatundu, a été aussi attaqué samedi dernier par des hommes armés qui avaient brûlé plusieurs maisons. Rendons-nous en Ituri et parlons de ce don du contingent sénégalais de la MONUSCO à la police nationale congolaise. Il est composé de 125 tenues et gilets de protection, 215 bâtons ainsi que des coffres-forts pour le stockage d'armes. Ils ont été remis hier. L'ambassadeur du Sénégal en visite à Bounia qui a remis ces matériels a déclaré que cet acte constitue une preuve de solidarité à la RDC qui est secouée par les groupes armés. Ezekiel Mousalia nous en dit plus.
Ces effets ont été remis aux autorités provinciales dans le but de renforcer la capacité des prestations de la police pour le maintien de l'ordre public pendant les manifestations dans cette période de l'état de siège. L'ambassadeur du Sénégal qui a remis ces effets au gouverneur de province indique que ce geste est une preuve d'affection particulière et de solidarité aux problèmes de sécurité dans la région. Papa Talam Diao.
Ces équipements permettent au commissariat de disposer de matériel moderne qui, combiné à d'autres moyens techniques disponibles, offre sur le plan opérationnel la garantie de remporter la décision sur les manifestants sans dommage corporel.
Le gouverneur de province salue ce geste qui prouve la volonté de son partenaire, la MONUSCO, de combattre aux côtés des FARDC pour l'éradication des groupes armés qui pilulent dans cette partie du pays. Le général Johnny Luboyan Kachama.
Ce sont nos frères africains. Tout ce que nous faisons ici, nous le faisons avec la MONUSCO. On décide de déplacer, nous sommes avec la MONUSCO, avec notre police, la police, l'UNPOL aussi.
Signalons que ces trois pays, le Pays-Bas, le Canada et le Sénégal, financent plusieurs secteurs pour la restauration de l'autorité de l'État à l'est de la RDC. Bounia, Ezekiel Mousalia, Radio Okapi.
Province de la Tchopo, le gouvernement provincial publié le 28 octobre dernier a été investi hier par l'Assemblée provinciale. C'était au cours d'une séance plénière à laquelle 25 députés sur les 28 que compte cet organe ont pris part. De ces 25 députés, 24 ont adopté le programme d'action présenté par la gouverneure Madeleine Nikomba et à l'occasion, ils ont procédé à l'investiture de son gouvernement. Ce programme d'action s'articule sur 8 piliers stratégiques pour une durée de 15 mois. Le compte-rendu de Jacques Moukonkolé.
Ces piliers stratégiques sont notamment la restauration de l'autorité de l'État, la sécurité des personnes et des biens, le renforcement de la justice, la relance de l'agriculture, la desserte en eau potable et l'électricité, ainsi que les infrastructures routières occupent également une place de choix dans ce programme. Le genre, la jeunesse, sports et loisirs ne sont pas demeurés non plus en reste. Madeleine Nikomba souligne que ces axes traduisent les besoins et les problèmes réels qui affectent la population de la Tchopo. Le gouvernement provincial doit s'atteler à y apporter des réponses appropriées, a-t-elle renchéri. Dans leurs interventions avant l'adoption de ce programme, les députés ont formulé quelques suggestions et recommandations, notamment la réhabilitation des résidences officielles du gouverneur et vice-gouverneur, ainsi que celle des membres du bureau de l'organe délibérant provincial. Madeleine Nikomba promet de prendre ses préoccupations en compte. Rappelons que son gouvernement est composé de 10 ministres, dont 3 femmes. Jacques Moukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Actualité internationale. La communauté internationale et la population éthiopienne ont salué avec prudence hier l'accord signé la veille entre le gouvernement fédéral éthiopien et les autorités rebelles du Tigré. C'est pour mettre fin à la guerre meurtrière qui ravage le nord de l'Éthiopie. L'accord a été conclu moins de 48 heures avant le triste deuxième anniversaire du déclenchement du conflit, ce après 9 jours de discussions sous l'égide de l'Union africaine à Pretoria. Kenya, 25 athlètes sanctionnés pour dopage en 2022, un bilan qui ternit encore un peu plus la renommée d'une nation phare de la discipline. La fédération kenyane a dévoilé une série de mesures plus strictes pour contrôler les agents, les personnels d'encadrement et les responsables médicaux.
L'invité.
Ce midi, nous recevons le coordonnateur des affaires civiles de la MONUSCO, Benny Lubero. Il nous parle des mécanismes de sortie en prélude à la fermeture de la base de la MONUSCO dans la chefferie de Watalinga de manière responsable et surtout des stratégies mises en place pour une relève conséquente par les acteurs de la protection civile et les services de sécurité de la place. Mérold Aguagansi s'entretient avec Marc Marofimbo.
Monsieur Mérold Aguagansi, bonjour.
Bonjour, Marc.
Vous dirigez une équipe de quelques sections de la MONUSCO ici à Kamango. Peut-on savoir l'objectif de cette mission?
Effectivement, comme vous le savez, les discussions sont avancées pour une fermeture probable de la base de Kamango. Et la semaine passée, nous avons envoyé une mission d'évaluation ici pour essayer de faire un assessment et identifier ce qu'on pourrait faire pour renforcer les mesures d'alerte communautaire et renforcer la collaboration avec les différents acteurs avant la fermeture effective de la base. Donc aujourd'hui, la mission composée des collègues de droits de l'homme, Child Protection, TDR et également la composante police de la mission. Nous sommes venus ici en fait pour organiser un atelier de renforcement des capacités avec l'ensemble des acteurs. Il y a la police, il y a UFRDC, les leaders de la communauté, les groupes de jeunes et de femmes, mais également les membres du LPC pour rappeler un certain nombre de principes en ce qui concerne les early warning et discuter de comment est-ce que nous pouvons continuer notre collaboration.
Et comment vous avez évalué après débat les niveaux de ces acteurs par rapport à cette attente de la fermeture probable de cette base?
Alors, comme vous le savez, c'est pas souvent facile quand on prend la décision de fermer une base, mais la mission a des priorités, des urgences qui se multiplient chaque jour. Si une telle décision a été prise, c'est que ça a été mûri et nous ne pourrons que accompagner. C'est vrai que la communauté n'est pas forcément d'accord, comme d'habitude, que la base quitte Kamango, mais nous essayons juste de prendre des dispositions pour que la communauté soit préparée à cette éventualité.
Quand vous avez parlé de une fermeture, soit une sortie responsable par cela, qu'est-ce que vous avez voulu dire?
Alors, comme vous le savez, la MONUSCO fait beaucoup et la communauté n'est pas forcément informée de tout. Une sortie responsable, c'est que nous nous mettions d'accord pour que les gens comprennent pourquoi nous sommes en train de vouloir prendre une telle décision et également discuter de ce que nous pourrons faire ensemble avec la communauté pour continuer à les assister de loin. Comme vous savez, il y a la protection par projection. C'est important que nous puissions maintenir les contacts avec les points focaux dans la communauté, mais surtout de les orienter vers leurs autorités de plus en plus maintenant. Moi, je pense que, comme vous avez pu remarquer, la communication, la collaboration avec les acteurs qui ont la charge de la réponse reste à améliorer. Et c'est ce pourquoi nous avons insisté sur la collaboration entre la communauté et leurs autorités sur place.
Et parmi les recommandations émises, lesquelles ont été clés pour la séance d'aujourd'hui?
Vous avez vu la requête de la communauté ou de représentants du Moami qui a exprimé le besoin de renforcement des capacités des OPJ au niveau de la PNC. Je pense que ça a été porté par nos collègues de UNPOL. Ils vont réfléchir à comment il faut donner suite à cela. Et l'autre chose, c'est de continuer à assister la communauté. Et comme je l'ai dit, c'est d'abord les responsables au niveau local qui doivent pouvoir répondre aux besoins de protection. Nous, nous sommes en appui et nous allons continuer dans la mesure du possible et du disponible à travailler à ce que les mécanismes continuent d'être renforcés.
Ces besoins étaient aussi ressentis par les comités locaux de protection ainsi que la société civile. Vous pensez comment vous allez mettre en musique ces demandes?
Il faut dire qu'au niveau de la mission, les réflexions sont avancées sur à qui il faut transférer les compétences de early warning. Récemment, nous avons eu des discussions avec un partenaire potentiel. Quand ce sera confirmé, je vous le dirai. Mais déjà, nous sommes dans cette logique-là. La mission n'a pas vocation à s'éterniser. Et quand on parle de sortie responsable, c'est de s'assurer que ce que nous faisions doit être approprié par les autorités à différents niveaux. Les membres du comité local de sécurité doivent continuer à travailler en appui aux autorités pour les besoins de early warning dans la zone.
Merlo Arounasi, nous vous disons merci.
Je vous en prie, merci à vous.
Le coordonnateur des affaires civiles de la MONUSCO, Benny Loubero, répondit aux questions de Marc Marofimbo. C'est la fin de ce journal coordonné par Piero Elamenji. Supervision de Martin Sebujangwe à la mise en onde Dieudonné Nyangasa. Merci de nous avoir suivis.